Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment les gens qui ont un domicile et les itinérants peuvent-ils mieux cohabiter? Un texte de Jasmine Legendre, paru le 2 novembre 2023 dans Le Devoir. Interdit de caca et d'urination en public. Peut-on lire sur une affiche posée sur un immeuble de logement du centre-ville de Montréal? La professeure en travail social à l'Université de Montréal, Caroline Grimard, que Le Devoir a rencontré lors d'une marche, le note. C'est objectivement difficile de cohabiter avec des gens qui font leurs besoins sur ton terrain, de voir du matériel de consommation en sortant de chez toi. Les personnes en situation d'itinérance doivent toutefois vivre tous leurs gestes d'intimité dans la rue. Tu n'es jamais soustrait au regard de l'autre. C'est extrêmement difficile aussi, ajoute-t-elle. Alors, comment faire pour assurer une cohabitation entre tous? Le centre de jour rue Action, Prévention Jeunesse, situé dans Ahuntsic, est né d'un besoin pour les personnes vulnérables d'avoir un endroit pour se poser dans un arrondissement où les services se font rares. Étant donné que la plupart des personnes qui fréquentent notre centre de jour n'ont pas de logement, elles n'ont pas accès à une buanderie ou à une douche. Ça leur permet de reprendre un peu leur dignité, explique la coordonnatrice du centre de jour, Mélissa Lemay. Un moteur de changement. L'ouverture des portes se fait à 9h et déjà près d'une dizaine de personnes affluent dans le petit local du boulevard Henri Bourassa. Emmanuela, qui vit dans la rue depuis le mois d'avril, est venue prendre une douche et faire sa lessive. Lorsqu'on est à l'extérieur tout le temps, pouvoir se ressourcer et faire d'autres démarches, c'est important, explique-t-elle. Ce genre de ressources contribue aussi à briser l'isolement de personnes, comme Michel, qui sont sortis de la rue, mais qui peinent parfois à boucler les fins de mois. Un sandwich gratuit peut grandement aider. Michel conçoit que ça peut être difficile de voir des gens dormir dans des tentes près de chez soi, mais il faut respecter le rythme de chacun. Il y aura toujours des irréductibles Gaulois qui ne veulent aller nulle part. Ils aiment ça, être dans la rue. Ils aiment ça, être dans les tentes, soutient-il. Mélissa Lemay abonde en ce sens. Pour tous ceux et celles qui veulent avoir un logement, on veut pouvoir les aider à leur rythme. Pour les autres qui désirent garder leur liberté, une solution pourrait être d'offrir un endroit dans la ville où les tentes sont permises, avance la coordonnatrice, qui croit que plus de sensibilisation permettrait aux gens qui ont un domicile de mieux comprendre la réalité des personnes en situation d'itinérance. Si aucune zone de campement n'est encore tolérée à Montréal, à Gatineau, les abris de fortune sont permis dans le stationnement du centre Robert Guertin. La ville vient d'annoncer l'ajout de 40 lits d'urgence au motel Montcalm, mais jusqu'à tout récemment, il n'y avait que le gîte Ami qui offrait 55 places. Tu vois que la population essaie d'aider, mais que les gens sont un peu confus puisqu'il n'y a pas de service. La personne qui dort dans un cadre de porte, on ne peut pas lui proposer un lit d'urgence parce qu'on sait qu'elle n'y aura pas accès, fait savoir la travailleuse de rue Sacha Yakimichon. Adapter les villes. Caroline Grimard croit qu'une meilleure cohabitation passera par l'adaptation des villes à accommoder cette population grandissante. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2022, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec évaluait à 10 000 le nombre de personnes en situation d'itinérance visible au Québec. Comment fait-on pour amener davantage d'installations, des toilettes chimiques, de petits auvents? Ce sont des pratiques qui sont inclusives pour des personnes en situation d'itinérance, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde. Les bancs de parc avec un accoudoir, ça empêche les personnes de se coucher. Mais ça empêche aussi les familles de changer la couche de leur enfant, avance-t-elle. Pour Madame Grimard, il faut penser la cohabitation en fonction du droit à la ville. Peut-être qu'habiter dans un parc, sans ancrage au logement, c'est une façon d'habiter la ville qui convient à des personnes à un moment de leur vie. Mais ça, on a de la difficulté à l'accepter, conclut-elle. C'était « Comment les gens qui ont un domicile et les itinérants peuvent-ils mieux cohabiter ?» Un texte de Jasmine Legendre, paru le 2 novembre 2023 dans Le Devoir. L'itinérance n'appartient pas à la rue ni à l'ombre. Un texte d'Annick Desrosiers, paru le 20 décembre 2023 dans Le Devoir. Je suis une travailleuse de ces équipes que la ville finance pour favoriser la cohabitation des personnes en situation d'itinérance et des autres dans Montréal. Je suis également une chercheuse en itinérance qui a pris congé pour aller prêter main forte aux populations pour qui notre hiver est une lutte pour la survie, pendant que les services en itinérance peinent à trouver des employés en quantité suffisante. J'aimerais vous parler, Madame la mairesse Valérie Plante, de ce que je vois dans ce travail que vous financez et vous faire une demande au nom des personnes qui sont visées par vos actions. Récemment encore, je rencontrais un couple dans la rue, un parmi tant d'autres, qui dormait dehors depuis 3 jours. Les ressources d'hébergement d'urgence pour femmes étant entièrement pleines, l'homme et la femme ont choisi de rester ensemble pour affronter les périls de la nuit et du froid propres à l'hiver montréalais. On peut s'imaginer que dormir dans une tente mal équipée est un défi en soi. Mais ce jour-là, ces personnes, et notre équipe au passage, faisaient face à un défi supplémentaire. Elles devaient aussi trouver des solutions rapides parce qu'une équipe policière aurait jeté leurs tentes et leurs effets personnels, soit ce qui leur permettait d'être moins à risque de mourir de froid. Ce couple n'en est qu'un parmi d'autres, et tout le monde est à même de constater l'augmentation de la face visible de l'itinérance à Montréal. Je connais l'ampleur de la crise que votre administration affronte et je sais bien que les réponses ne viendront pas que du niveau municipal. Je comprends également que l'itinérance est visible dans les villes, même si les moyens de la prévenir et de la combattre sont souvent aussi ailleurs. Laissez-moi toutefois vous dire, de ma posture bien informée et avec mes doigts encore froids du temps passé avec les personnes en campement, qu'on ne peut pas espérer cacher l'itinérance à Montréal sans causer plus de souffrance et qu'on risque alors une explosion de sa quantité et de sa visibilité. Il faut pouvoir faire en sorte de donner aux gens de quoi survivre, bien sûr, mais aussi de quoi s'en sortir. Si c'est une question d'humanité et de solidarité de base, c'est également, à long terme, la seule façon de permettre une cohabitation saine dans la ville. Cohabiter avec la misère ne sera jamais confortable pour qui que ce soit. La vivre non plus, d'ailleurs. Dans un contexte de crise du logement et d'augmentation marquée de l'itinérance et de la précarité, où nous avons compté en octobre 2022 qu'un minimum de 4690 personnes étaient en situation d'itinérance dans notre ville, alors que nous ne disposons que de 1600 places d'hébergement d'urgence aux conditions parfois plus que précaires, comment est-il donc possible que la ville procède encore à des démantèlements et à plus forte raison sous un prétexte de sécurité en plein hiver? Nous sommes devant une crise humanitaire qui réclame des solutions de long terme, mais qui appelle également à des compromis qui mettent en priorité les besoins des personnes qui souffrent le plus, soit les personnes en situation d'itinérance, bien que la situation soit difficile pour les citoyens domiciliés également. Les campements ne sont pas nécessairement ce que nous pouvons souhaiter de mieux pour les personnes en situation d'itinérance. Mais tant qu'elles n'auront pas d'autres options, n'est-il pas immoral d'exiger d'elles de ne pas être dehors alors qu'elles ne peuvent pas être dedans non plus? Nous pouvons être en colère, et avec raison, contre ce qui fait que l'itinérance existe et ne plus souhaiter la voir dans notre ville. Il est toutefois contre-productif de diriger cette colère ou ces efforts d'invisibilisation contre les personnes qui sont au cœur de cette violence sociale et qui tentent seulement d'y survivre. Nous devons plutôt consacrer l'énergie de cette colère à rebâtir et à solidifier la solidarité qui prévient l'itinérance, favorise la sortie de celle-ci et soutient les personnes qui la vivent. Tant que nous sommes en situation de crise sociale, au plan du logement comme du financement des ressources communautaires et des services publics, je vous demande donc, Madame la mairesse, au nom des personnes que j'accompagne, de faire votre part en mettant fin au démantèlement et aux opérations de nettoyage qui se font au mépris des droits de la personne. Ce ne sont pas là des réponses acceptables et suffisantes. Nous devons nous engager activement à plutôt mettre en place des solutions de rechange dignes et en nombre suffisant pour répondre aux urgences qui dépassent nos moyens quand l'hiver arrive, en offrant des possibilités de logement abordables et adaptées à tous et toutes. Les campements visibles doivent nous encourager à identifier les véritables problèmes pour changer la donne. Les personnes en situation d'itinérance n'appartiennent pas à la rue et à l'ombre. Elles sont de notre communauté et ont un avenir comme personnes domiciliées, si on s'engage collectivement à y arriver avec elles. C'était « L'itinérance n'appartient pas à la rue ni à l'ombre », un texte d'Annick Desrosiers, paru le 20 décembre 2023 dans Le Devoir. Des intervenants sociaux dévoués sur le terrain. Un texte de Lubna Schleicki, paru le 20 mars 2024 dans le journal des voisins. Acteurs invisibles de l'aide aux personnes itinérantes, les intervenants psychosociaux œuvrent au quotidien sur le terrain. À bord du camion de l'accessoire ou à pied, ils sillonnent sans relâche l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Reportage. Au volant d'un camion blanc, Véro part à la rencontre des plus vulnérables. Ce soir-là, elle est accompagnée par Gabriel, qui est intervenant à temps plein à l'accessoire, comme elle, et Rachel, professionnelle dans le secteur. Tous trois partagent les mêmes valeurs de justice sociale, de solidarité, et ont choisi cette voie par vocation. On fait ce métier par passion, pas pour l'argent, souffle Véro. Le milieu communautaire et social est en effet connu pour ne pas être très payant. Il faut dire que les organismes survivent souvent avec des moyens limités et dépendent essentiellement des subventions publiques. Pour autant, les intervenants psychosociaux sont essentiels. Sans eux, je pense que je ne serai plus là aujourd'hui, assure celui qui se fait appeler Raccoon, un homme de 55 ans dont la rue est la maison depuis de nombreuses années. Tous ceux qui ont croisé la route de ces professionnels dévoués le confirment. Leur soutien est inestimable. Une équipe mobile. Sous le pont de l'autoroute 40 au croisement de l'avenue Christophe-Colomb et du boulevard Crémazie, le camion de l'accessoire de l'organisme Rap Jeunesse se gare pour son deuxième arrêt de la soirée. Du mardi au vendredi, l'équipe mobile se rend en différents points de rendez-vous de l'arrondissement. Objectif : rejoindre les gens les plus précaires, briser l'isolement, faire de la prévention. Chaque soir, ils reçoivent 20 personnes en moyenne. Dès l'arrivée du camion, Alain, qui vit dans un campement depuis 2 ans, entre se réchauffer. Je viens chaque fois voir cette gang quand je suis là. C'est la meilleure chose pour nous de les avoir pour parler, boire un café, avoir mon courrier, tout ça, assure celui qui était camionneur. Après des années de travail, un accident de la route le rend incapable de rester en emploi. Les dettes, les loyers impayés et l'éviction inéluctable de son appartement. Je suis sur la liste d'attente pour avoir un logement social, mais je n'y crois plus. Je vais rester là jusqu'à mourir, s'il le faut, mais je n'irai pas dans les hébergements d'urgence où on se fait voler nos affaires, désespère-t-il. Pendant une heure, Véro, Rachel et Gabriel lui apportent ce qui lui manque le plus, la chaleur humaine. Autour d'un café bien chaud, ils prennent de ses nouvelles, discutent de tout et de rien, comme on le ferait avec un ami. Rejoint par un autre homme en situation d'itinérance, les professionnels l'accueillent avec un sourire et un café. Une mission de prévention. Avant de reprendre la route vers leur prochain arrêt, il leur propose de repartir avec un sac garni selon la demande de chacun. En fonction de leurs besoins, on donne de la nourriture, des vêtements, de dépannage aux besoins, des produits d'hygiène, on a aussi du matériel d'injection ou d'inhalation et toute une gamme de condoms, explique Gabriel. L'accès soir a en effet une mission de prévention de la propagation des infections transmissibles sexuellement et par le sang, ITSS. Très bien organisé, le camion compte de nombreux placards dans lesquels se trouve tout le nécessaire. Une fois par mois, une infirmière de proximité se joint à l'accessoire pour proposer des dépistages ITSS et une vaccination contre les hépatites A et B. Ce service de santé publique est offert à l'arrêt de Parc Extension une fois par mois. Enfin, l'accessoire a aussi des arrêts communs avec l'équipe de Médecins du Monde une fois par semaine. C'était des intervenants sociaux dévoués sur le terrain. Un texte de Lubna Schlaiki, paru le 20 mars 2024 dans le journal Des Voisins. On doit partir. Un autre camp d'itinérants démantelé à Montréal. Un texte d'Anouk Lebel, paru le 16 avril 2024 dans le journal de Montréal. Le RAPSIM appelle la ville de Montréal à la tolérance tant qu'il n'y aura pas d'autre solution. Des sans-abri qui avaient installé leur tente aux abords de l'accueil Bonneau, dans le Vieux-Montréal, ont reçu un avis d'éviction et devront se relocaliser, ce qui est tristement devenu pour eux une routine. On passe quelques mois à un endroit, on se fait mettre dehors. On va ailleurs et ça recommence, se résigne Camilla Kudlakovla. La jeune femme originaire de Toronto déménage d'un campement à l'autre depuis son arrivée à Montréal il y a 3 ans. Elle a planté sa tente sur le Mont-Royal, puis à Saint-Henri, sous un pont au centre-ville. Depuis 2 semaines, elle a déposé ses pénates à quelques mètres de la tente d'un homme qui affirme avoir passé l'hiver dans ce parc de la rue de la Commune. Avis d'éviction. On a reçu notre avis d'éviction. On doit partir d'ici jeudi, lance ce dernier, qui n'a pas voulu s'identifier. Connu des intervenants de l'accueil Bonneau, il était le dernier occupant du terrain, où il y a eu 7 ou 8 tentes au cours de la dernière année. Madame Kudlakovla est venue se joindre à lui, faute d'endroit où aller. Dans les refuges, il n'y a pas de place tous les soirs, et il faudrait que j'entrepose mes affaires quelque part, évoque-t-elle. Elle assure qu'elle aura quitté les lieux d'ici jeudi, mais ignore où elle ira. Appel à la tolérance. Le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal dénonce que ce type d'intervention soit devenu une routine dans la métropole. On appelle à la ville à faire preuve de tolérance. il n'y a pas d'alternative pour les personnes qu'on démantèle, qu'on déplace et qu'on met à risque, plaide la directrice Annie Savage. Elle rappelle que le phénomène des campements de sans-abri a pris de l'ampleur depuis le début de la pandémie dans le centre-ville, mais aussi dans l'Est, dans Saint-Henri et même dans l'Ouest de l'île. Selon elle, il faut investir pour offrir davantage de places en hébergement d'urgence 24/7, mais aussi et surtout dans le logement. C'est tout ce que les gens demandent, un logement décent, dit-elle. C'était « On doit partir », un autre camp d'itinérants démantelé à Montréal, un texte d'Anouk Lebel, paru le 16 avril 2024 dans le Journal de Montréal. Les sans-abri ne pourront plus dormir dans les espaces publics en Floride. Un texte de la rédaction, d'après les informations de CBS News, paru le 21 mars 2024 dans le Journal de Montréal. Les personnes en situation d'itinérance de la Floride ne pourront plus dormir sur les trottoirs, dans les parcs ni dans tout autre espace public, selon une nouvelle loi adoptée le 20 mars 2024 par le gouverneur républicain Ron DeSantis. La nouvelle législation, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2024, prévoit, en contrepartie, d'offrir plus de ressources en santé mentale et en toxicomanie à cette population. Le département d'État de l'enfance et de la famille aiderait les différentes municipalités à trouver des terrains afin de permettre aux sans-abri d'installer des campements. L'usage d'alcool et de drogue y sera interdit et des installations sanitaires seront offertes aux usagers. Ces campements seront installés dans des secteurs où l'offre de logement sera insuffisante. Les personnes qui s'y installeront devront suivre une thérapie comportementale avant d'en ménager. Dès janvier 2025, les résidents, les commerçants et le procureur de l'État pourront entamer des recours judiciaires contre les villes ou les comtés qui permettront aux itinérants de camper dans un lieu public. Cette loi répond à des critiques formulées par des citoyens et des commerçants qui estimaient que la présence d'itinérants dans les lieux publics nuisait à leur qualité de vie. Il était également plus difficile pour l'État d'offrir des services à cette population puisqu'elle est répartie partout sur le territoire, a expliqué Ron DeSantis en point de presse. « Je crois que c'est le compromis parfait », a-t-il dit. « Notre priorité, c'est la sécurité du public. » Les opposants à la mesure estiment qu'elle vise essentiellement à ramasser tous les itinérants et à les cacher de l'œil des citoyens. Cette loi ne s'attaque pas et ne s'attaquera pas aux racines qui poussent les gens vers l'itinérance, a commenté le démocrate Chevron Jones. Nous ne faisons que réduire la visibilité des sans-abri sans leur offrir de solution à leur situation. Le nombre d'itinérants en Floride est estimé à 30 700 individus selon les données recueillies en 2023. C'est moins que la plupart des grandes villes américaines, mais les supporters de la loi estiment que cette proportion pourrait s'alourdir en raison de l'augmentation rapide de la population. C'était « Les sans-abri ne pourront plus dormir dans les espaces publics en Floride », un texte de la rédaction d'après les informations de CBS News, paru le 21 mars 2024 dans le Journal de Montréal. Les 10 ans d'une politique nationale en itinérance. Un texte de Bernard Saint-Jacques, paru le 27 février 2024 dans Le Devoir. Le 27 février 2014, la ministre déléguée aux services sociaux, Véronique Yvon, lançait la politique nationale de lutte à l'itinérance. Si la teneur des problèmes actuels et des manchettes quotidiennes concernant le phénomène pourraient nous faire croire que celle-ci n'a rien donné, il faut plutôt remettre en cause l'occasion manquée de maintenir le consensus initial autour de cet outil et l'instrumentalisation malsaine dont il a fait l'objet par nos gouvernements. Le naturel et ses besoins spécifiques sont donc revenus au galop après l'adoption de la politique, nous faisant oublier des principes, des droits et des personnes. La politique permet d'enchâsser des principes structurants pour assurer la compréhension de l'itinérance et une meilleure cohérence entre les actions souvent éparses qui sont menées pour y faire face. Elle doit donner une dimension structurelle à un phénomène qu'on a trop souvent tendance à individualiser, affirmer la nécessité d'une responsabilité collective à son égard et reconnaître la personne en situation d'itinérance comme citoyenne à part entière. Elle doit donner des armes aux organismes d'aide, leur permettant d'invoquer, au besoin, la politique lorsque nos paliers de gouvernement sont sur le point de faire de mauvais choix. La politique est née d'un combat amorcé en 2004 par le milieu communautaire sous la bannière du Réseau Solidarité Itinérance du Québec, RSIQ. Elle s'appuie sur une prémisse en apparence fort simple, à savoir que la situation d'itinérance se compose d'un ensemble de droits bafoués ou niés et que c'est la réintégration de ces droits qui peut permettre d'avoir gain de cause sur les racines du phénomène. On parle ici du droit de cité, à un logement, à un revenu décent, à la santé, à l'éducation, ainsi qu'à un réseau d'aide et de solidarité. La ministre Yvon affirmait, en plus de « mourir dans la dignité », vouloir accomplir un autre projet avec la politique en itinérance, soit celui de vivre dans la dignité. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il convient comme société de prendre un peu de recul et, pour un temps du moins, de cesser de gérer avec précipitation et amateurisme un phénomène qui renvoie à quelque chose d'aussi complexe que des droits. Profitons de ce 10e anniversaire pour se rasseoir et faire collectivement le bilan qui s'impose de cet outil phare qui, rappelons-le, a été scellé dans un beau moment de solidarité. C'était les 10 ans d'une politique nationale en itinérance, un texte de Bernard Saint-Jacques paru le 27 février 2024 dans Le Devoir.